Ah, merci Seigneur pour ces instants. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans Matthieu au chapitre 8. Matthieu chapitre 8 et le verset 1er. Matthieu chapitre 8 et le verset 1er, je le lis. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Amen. » Ce soir, j'aimerais qu'on puisse ensemble réfléchir à ce qui a permis à cet homme, ce lépreux, d'être délivré, d'être exaucé dans sa prière. Si on pouvait donner un titre à ce message, ça serait la prière du lépreux, tout simplement. Parce que ce lépreux est venu vers Jésus avec une prière dans le cœur, et il n'a pas seulement, il s'est pas contenté d'avoir la prière dans le cœur, mais il est venu, il a fait toute une démarche physique même, pour aller jusqu'au devant de Jésus, et il a été exaucé, tout simplement. Il a reçu ce qu'il demandait. Est-ce que c'est bien quand on prie de recevoir ce qu'on demande? Je pense que c'est intéressant quand on prie de recevoir la chose qu'on a demandée. Et d'ailleurs, Jésus le dit très bien, si on demande du pain, il ne va pas nous donner un serpent ou un scorpion. Il nous demande, et si on demande du pain, il va nous donner du pain. C'est la promesse de Dieu. Du moment que c'est une bonne chose qu'on demande au Seigneur. Voilà la seule chose qu'il faut faire attention. C'est sûr que si on demande quelque chose de mauvais, il ne va pas nous le donner. Et la première remarque que je fais sur ce passage, c'est que une grande foule suivait Jésus. Une grande foule suivait Jésus. Et si on lit les passages précédents, le chapitre précédent, on voit que Jésus a donné toutes sortes d'enseignements. C'était le sermon sur la montagne, entre autres, les béatitudes, toutes ces enseignements qui sont profonds, qui sont simples, qui sont tellement imagés, qui parlent tellement. Et peut-être que parmi la foule qui est là, il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus, mais il y en a beaucoup qui le suivent avec des intentions différentes. C'est pas les mêmes personnes qui suivent Jésus. Bien sûr, il y a les disciples, les premiers qui le suivent, et ça c'est évident, que eux le suivent véritablement parce qu'ils veulent le connaître, ils veulent apprendre de lui, apprendre à connaître Jésus-Christ. Mais il y a toute une foule qui est là, et je réfléchissais à pourquoi, quelle raison pousserait une foule à suivre un homme, et en particulier Jésus. En ce moment-là, j'ai donné ces quelques points tout simplement. Il y en a qui doivent le suivre à cause de l'autorité qu'il a, l'autorité dans la parole. Parce que quand il est, d'ailleurs c'est juste dit précédemment, la foule fut frappée de sa doctrine, au verset 29 du chapitre 7. La foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait avec autorité. Ça leur changeait de ces religieux qui étaient là et qui lisaient toutes sortes de passages de l'Ancien Testament. Il les disait peut-être de mémoire, mais il n'y avait aucune autorité derrière, ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Jésus, lui, quand il parle, c'est avec autorité, avec toute puissance. Il y a des gens peut-être qui étaient là parce qu'ils étaient impressionnés par son autorité, mais ça s'arrêtait là. Peut-être qu'il y en a d'autres, ils étaient là parce que les miracles de Jésus, ils étaient divertissants. Est-ce que quelque part, ça peut être divertissant, un miracle? C'est quelque chose d'étonnant, c'est au moins notre curiosité fait qu'on voudrait voir un miracle. Ça, c'est une réaction humaine. Mais est-ce que le fait de voir un miracle, ça change une vie? Ça, c'est moins sûr, beaucoup moins sûr. Combien de personnes ont connu même des miracles dans leur corps, ont été guéries suite à une prière que l'Église a faite, et se sont détournées de Dieu, parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, et voilà. Est-ce que c'est important de voir des miracles, dans ce sens de rechercher le miracle? Je ne pense pas. Et ces personnes qui suivaient Jésus, pour ces miracles, je ne pense pas qu'elles sont restées longtemps à le suivre. Dès que la parole est devenue plus dure, plus difficile à entendre, dès qu'elle a commencé à venir parler à leur cœur et à mettre en relief peut-être les choses qui n'allaient pas, je pense que ces personnes-là sont parties. Il y en a peut-être qui venaient suivre Jésus pour manger. Parce que Jésus il avait fait la multiplication des pains. ils savaient qu'il était capable de faire ces choses, et il y en a tout simplement, ils n'avaient pas à manger, ils étaient pauvres, et ils suivaient Jésus pour ce qu'il pouvait leur apporter. D'autres, ils pouvaient le suivre parce qu'ils avaient vu qu'il avait une sagesse impressionnante pour la philosophie de Jésus. Et ils considéraient avec leur intelligence les paroles qu'il disait, mais sans que ça vienne jusqu'au cœur. Et peut-être qu'ils le suivaient de cette manière-là, et ils s'attendaient à recevoir de Jésus quelque chose de manière intellectuelle. Mais on sait très bien que la parole de Dieu, elle doit être comprise avec le cœur, et non seulement elle doit être comprise avec le cœur, mais elle doit être mise en pratique si on veut qu'elle soit efficace. D'autres, tout simplement, parce qu'ils voyaient les autres suivre, par curiosité, ils suivaient le mouvement. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Alors ils voulaient, par curiosité toute simple, ils voulaient écouter ce que Jésus avait à dire. Mais il y en a un qui sort du lot, et c'est cet homme-là qu'on va étudier, parce que c'est lui qui nous donne l'exemple, comment notre prière peut être exaucée. Cet homme-là, il sort du lot, et il ne sort pas du lot parce qu'il est meilleur que les autres, bien au contraire, quand on regarde sa vie, et je me suis véritablement imaginé cet homme. J'ai essayé de me mettre à la place de cet homme, de voir quel sentiment il pouvait l'animer. Et on a lu ensemble, un lépreux s'étant approché. Oui, il y a une foule immense qui suit Jésus. Mais il y a cet homme-là qui sort du lot, qui s'approche de Jésus. Il y a la foule immense qui est là, mais qui suit Jésus, on dirait presque de loin. Il n'y en a qu'un qui s'approche de Jésus. Il n'y en a qu'un qui fait cette démarche de s'approcher. Et quand on regarde sa vie, vous savez que les lépreux, à cette époque, déjà, ils avaient le devoir de ne pas être avec les autres, au contact des autres personnes. Ils avaient ce devoir de crier « impur, impur » quand ils passaient quelque part pour prévenir les autres qu'ils étaient impurs. Et ils avaient ce devoir aussi de porter des habits, des vêtements déchirés, de se couvrir la bouche, la barbe, parce qu'ils avaient tous une barbe à l'époque, mais c'était surtout pour se couvrir la bouche, parce que c'était le moyen de contamination. Et cet homme-là, il est venu, et quand on l'observe, on arrive à discerner véritablement que même s'il essaye de cacher son mal, même s'il essaye de cacher les blessures, ce qu'il a sur les marques sur son visage, on parvient quand même à voir. Et j'ai regardé par curiosité comment ça se manifeste, la lèpre. Et si vous regardez sur Google, hein, très simplement, vous tapez « lèpre », et dans les images, vous allez voir des personnes qui sont atteintes de la lèpre. Encore aujourd'hui, ça existe. Donc on a vraiment une image de ce que c'est. Et on voit que ces personnes qui sont atteintes de la lèpre, en particulier au visage, elles ont le visage complètement déformé. Mais si la lèpre continue son ravage dans le corps, si on n'est pas soigné, eh bien ça peut arriver à avoir carrément des membres du corps qui sont carrément ôtés. Ça vient ronger. La lèpre est un mal qui ronge le corps petit à petit. Et j'ai noté ça, c'est que ça touche trois domaines en particulier, même quatre domaines, on va dire. La peau, ça touche la peau et les nerfs. Ça paraît évident. Les membres et les yeux. C'est les trois grands domaines où la lèpre fait ses ravages. Et nous, pour nous, ce soir, la lèpre, on la connaît très bien. Quel est le nom de la lèpre ? Que la Bible nous parle, le péché. Est-ce que la lèpre du péché n'aurait pas cette même faculté que la lèpre physique de ronger le cœur de l'homme, de ronger l'homme, l'être entier de l'homme, de dénaturer ce que Dieu a créé bon à l'origine et de le rendre de telle sorte que tout ce qui est concerné, comme la peau et les nerfs, j'ai pensé aux sens, les sens, les membres, ça nous parle des actions, les yeux, ça nous parle du discernement, toutes ces choses sont ravagés par la lèpre. Toutes ces choses sont dénaturées. Alors que Dieu nous appelle à ce que nos sens soient à sa gloire, Dieu nous appelle à ce que nos actions soient à sa gloire, Dieu nous appelle à ce que notre intelligence, notre discernement soient à sa gloire. Le péché est là et vient ronger tout cela de telle sorte que quand on est sous le joug du péché, on n'a plus ce discernement. Nos actions sont mauvaises. Et même si on voudrait faire le bien, on n'y arrive plus parce qu'on est sous ce joug du péché. Mais alors on peut se poser cette question, que fait cet homme ici? Quand on lit l'histoire en entier, on a bien compris pourquoi il est venu. Mais est-ce que sa présence n'est pas une insulte en elle-même? Est-ce que sa présence simplement n'est pas une insulte à Dieu? Parce que c'était quand même écrit dans la loi que le lépreux ne devait avoir aucun contact, il devait avoir sa maison, sa tente plutôt, à l'extérieur du camp. Et il devait rester isolé. Ça, c'est bien écrit. Et ce qui est terrible quand on imagine la vie de ce lépreux, c'est qu'à un moment donné, tout allait bien chez lui. Parce que je ne pense pas qu'il est né lépreux. Mais à un moment donné, tout allait bien. Mais quand la lèpre a commencé à se déclarer, quand il a commencé à avoir une tâche, il devait aller se montrer au sacrificateur, il devait faire toutes sortes de processus. Mais quand il a commencé à voir que la lèpre, ça s'étalait, ça commençait à ravager son corps de plus en plus, et que le sacrificateur a dû le mettre à l'écart, et surtout a dû mettre ses affaires au feu, pour pas que ça se propage davantage, et surtout qu'il a dû dire au revoir à sa famille, parce qu'il était interdit qu'il reste avec sa famille. Il a dû le mettre à l'écart du camp, à l'écart du peuple de Dieu, à l'écart de tous les autres. C'est ce que le péché fait pour l'homme. Le péché met à l'écart l'homme des autres hommes aussi. Parce que malgré le fait qu'on soit dans une société où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de personnes autour de nous, et quand on va dans le métro ou quand on prend les transports en commun, quel qu'il soit, on a beaucoup de monde qui vadrouille autour de nous. Quand on prend la voiture, on a des centaines et des milliers de voitures qu'on croise tous les jours. Mais combien de personnes parmi cette foule-là d'individus qu'on croise sont seuls, malgré la multitude qui les entoure. Seuls pourquoi ? Parce qu'il y a le péché qui ronge leur cœur. Et on est non seulement séparé des hommes, mais on est aussi séparé de Dieu par le péché. La Bible nous parle que c'est nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. C'est nos péchés, les péchés que nous commettons qui nous cachent sa face. Est-ce qu'il avait choisi d'être lépreux ? Peut-être pas directement, mais à un moment donné, il s'est retrouvé en situation. Il a dû se retrouver au contact de quelqu'un qui avait la lèpre et qui a, par une circonstance ou une autre, qui lui a transmis le virus. Je ne sais pas si c'est un virus, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais qui lui a transmis la maladie. Tandis que le péché, lui, c'est quelque chose d'héréditaire. C'est-à-dire que, d'ailleurs je vais vous le prouver par un verset, Romains 5, 19, « Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. » Il a suffi d'un seul homme de péché, et après cet homme, il a engendré des fils et des filles, et nous sommes de la descendance de cet homme c'était Adam, et nous sommes maintenant pécheurs. Et ce qui veut dire qu'aux yeux de Dieu, tous ici, autant que nous sommes des lépreux. Et il n'y a pas un qui n'est pas un lépreux. Et si nous considérons nos parents, si nous considérons nos grands-parents, si nous remontons l'arbre généalogique de nos familles, et que nous essayons d'aller au plus loin possible, tous autant qu'ils sont des lépreux aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas un qui est pur aux yeux de Dieu. Mais la différence, c'est que certains ont été guéris de la lèpre. Certains, beaucoup ici, ont été guéris de la lèpre, mais il y en a encore beaucoup au dehors qui sont loin, qui sont encore impurs. On comprend maintenant pourquoi il a pu se frayer un chemin jusqu'à Jésus, quand les gens ont commencé à voir sa silhouette, quand ils ont commencé à le voir, peut-être en titubant, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel domaine il était ravagé par la lèpre, mais on sait que ça ne devait pas être facile, même simplement le fait d'avancer. On sait que le fait de se cacher son visage, et peut-être, on ne sait pas s'il criait impur, s'il y est allé vraiment dans le but de manifester qu'il était impur, ou s'il a un peu caché pour essayer d'approcher Jésus. En tout cas, il n'y a pas fallu longtemps pour que les gens réalisent que cet homme était pécheur, que cet homme était lépreux, du moins. Que cet homme était lépreux. Et il y a cette image qui vient répondre à cette question des personnes qui croient que Dieu nous bénit en fonction de si on est riche ou si on est pauvre, c'est la malédiction de Dieu ou c'est la bénédiction de Dieu. Il y a cette image qui est parlante, mais qui dit que, en fait, imaginez ce train, il y a une locomotive qui est là, et le wagon qui suit la locomotive, c'est la première classe, la classe des VIP, allez, on va inventer une classe, la classe des VIP qui est là. Alors là, vous avez tout en or, vous avez les sièges qui se rabattent, qui sont très, très confortables, vous avez les hôtesses qui sont là et qui prennent soin de vous. Après, vous avez la première classe qu'on connaît, pour certains, ceux qui prennent le train et qui ont déjà pris la première classe. Moi, ça ne m'arrive pas souvent, c'est plutôt la deuxième. Mais là, on a déjà un peu plus de place que la deuxième dans la première classe. Mais c'est moins confortable que la classe VIP. La classe VIP, c'est le gars qui a loué 100 wagons pour lui tout seul. La classe, première classe, c'est, on a un peu plus de confort, mais c'est un peu moins bien. La deuxième classe, bon, celle-là, on la connaît. Hein. Moi, je l'ai pris longtemps en faisant mes voyages pour les études, pour X raisons. J'allais souvent en deuxième classe. Et là, c'est sûr que si le voisin de devant, il veut s'assoupir, c'est pas hyper confortable, hein, parce que tout de suite, on a le truc qui nous vient sous le nez, comme ça, et c'est pas terrible. Mais au moins, on avance. Et puis, on va inventer encore des wagons. À l'époque, ça existait. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais on va imaginer que tout au bout du train, il y a un wagon où on met les animaux. Et si jamais quelqu'un n'a pas les moyens, et bien on le met avec. Est-ce que c'est important, dans le voyage, qu'on soit en classe VIP ou qu'on soit au dernier wagon pour avancer? Qu'est-ce qui est important, surtout dans un voyage? Oui, d'être dans le train, mais encore, d'avancer. Et voilà, l'arrivée. Ce qui est important, c'est surtout l'arrivée. Parce que vous allez comprendre. Mais à quoi ça sert d'avoir d'être dans le wagon VIP si l'arrivée, c'est l'enfer? Est-ce que c'est important d'être dans le wagon VIP ou dans le wagon pour les bêtes? Est-ce que ça va changer quelque chose, du moins, à l'arrivée? Alors peut-être pendant le temps du voyage, ça va être un peu plus agréable, mais la finalité, c'est la même. Vous voyez? Et l'important, c'est pas comment on vit l'existence maintenant, dans ce sens des richesses, dans ce sens de ce qu'on possède. L'important, c'est de savoir où on va. C'est de savoir quelle est notre destination. C'est ça qui est important. Et j'imagine ce lépreux. Peut-être qu'il s'est débrouillé tout seul pour venir, mais peut-être qu'il a rencontré sur sa route des lépreux qui avaient été guéris. Et ce soir, nous sommes des lépreux qui avons été guéris de la lèpre du cœur, de ce péché qui était dans notre cœur. Et si nous étions au temps de Jésus, nous aurions pu accourir au-devant de cet homme, lui rendre témoignage. Oui, viens Jésus, viens te fortifier auprès de Jésus, viens Jésus va avoir une parole pour toi, viens Jésus, il est capable de te guérir. Ce soir, nous pouvons vous dire la même chose. Viens à Jésus, Jésus est capable de guérir ton cœur brisé, Jésus est capable de faire ce que les hommes trouvent impossible. Parce que Jésus est tout puissant et nous l'avons vécu. C'est pas seulement des choses imaginaires, mais c'est des choses réelles dans notre vie. Nous avons été libérés, délivrés du péché parce que Jésus a bien voulu se pencher vers nous et parce que nous avons bien voulu écouter son cœur, écouter ce qu'il nous demandait. Le lépreux, il arrive, il s'approche de Jésus et peut-être qu'il y avait des gens mécontents autour. Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient horrifiés. Peut-être qu'il y avait des gens religieux qui s'écartaient. Comme aujourd'hui, il y a encore des gens religieux quand ils voient des hommes pécheurs. Au lieu de prendre soin d'eux, au lieu de leur dire venez à Jésus-Christ, venez être transformés, venez changer de vie auprès de Jésus-Christ. Les gens tellement religieux qui sont tellement saints qu'ils ne veulent pas s'occuper des gens impurs. Ils ne veulent même pas poser le regard dessus. Pour nous qui connaissons Jésus, soyons ces anciens lépreux qui ont été guéris, qui portent ce témoignage autour de nous. Oui, viens Jésus, il est capable de faire quelque chose pour toi. Quelle que soit ta situation, il n'y a pas de problème qui soit plus grand que notre Seigneur, parce qu'il est tout puissant. Alors ce lépreux, il arrive devant Jésus, et qu'est-ce qu'il fait devant Jésus? Il se prosterne. Il se prosterne devant lui. Et je me posais cette question, est-ce que la vie de ce lépreux ne l'a pas déjà humilié profondément? Est-ce que tous les jours de sa vie, il n'est pas en train de se poser cette question, mais pourquoi ça m'arrivait à moi? Pourquoi je vis dans la souffrance? Pourquoi j'ai cette difficulté? Pourquoi toutes ces choses se sont passées pour moi et pas pour un tel? Pourquoi j'ai dû quitter ma famille? Pourquoi j'ai versé tant de larmes? Pourquoi j'ai tant de souffrances jour après jour? Est-ce que la vie ne l'avait pas épargné? Je ne pense pas que la vie l'avait épargné. Mais ce que je vois dans ce lépreux, c'est qu'il ne s'est pas laissé abattre. Et beaucoup de gens, quand ils réalisent, quand ils sont dans la souffrance, quand ils sont dans la difficulté, au lieu de rebondir sur cela, au lieu de venir à Jésus et de se prosterner devant Jésus, oui Seigneur, la vie ne m'a pas épargné, mais je veux encore m'humilier devant toi. Je veux encore avoir cette démarche devant toi. Je veux reconnaître que tu es tout puissant. Je veux me soumettre. Certains, à ce moment-là, ils reprochent à Dieu toutes sortes de choses, alors qu'ils n'ont jamais voulu écouter ses conseils. Mais Jésus sait quand quelqu'un vient le voir avec un cœur humble. Et c'est le cas de ce lépreux. Et quand il est bien précisé qu'il se prosterna devant Jésus, est-ce qu'il n'y avait pas la foule qui était encore autour? Je me posais cette question. La foule, elle était encore là. Pourtant, lui se prosterne devant Jésus. Et je réfléchissais à cette chose tellement simple. C'est que déjà, aux yeux de tous les autres, il n'était plus rien. Les autres peut-être le méprisaient, les autres l'ignoraient, les autres le fuyaient. Il n'était déjà plus rien à leurs yeux. Il n'avait même pas besoin de s'humilier. Il était déjà profondément humilié. Tandis que devant Jésus, il avait besoin de faire cette démarche, de montrer qu'il avait ce cœur humble. Et son attitude révèle la détermination de son cœur. Il tente le tout pour le tout. Tant pis si j'enfreins la loi, si je déplais aux hommes qui m'entourent, pourvu que Jésus entende ma prière. Et ce qui est important, c'est que Jésus puisse entendre notre prière, qu'il n'y ait rien qui puisse nous empêcher que de cette chose-là, que Jésus entende notre prière. Je pense qu'il s'est dit cette chose-là. Je vais risquer le tout pour le tout. Et de toute façon, soit il va m'écouter, soit il va m'exaucer, soit je vais peut-être être condamné par ceux qui sont autour, mais au moins je vais peut-être être lapidé, mais au moins je vais parvenir à la mort, parce que de toute façon, ma vie, elle est déjà dans la mort. Je vis déjà la mort, jour après jour. Est-ce que vous imaginez ce lépreux, dans les moindres tâches, s'il avait peut-être certains doigts qui manquaient, ou je ne sais pas, quand on regarde certaines images, c'est frappant de voir comment la lèpre peut ronger tous les membres. Est-ce qu'il n'avait pas la vie rendue difficile? Est-ce que pour lui, c'était pas préférable la mort? Oui, mais avant d'aller jusqu'à cette extrémité, il a voulu tenter Jésus-Christ. Il a voulu prendre le risque, j'appelle ça le risque de la foi. Il a voulu risquer de croire. Et c'est vrai que c'est un risque de croire. Parce que ça plaît pas à tous les hommes qui sont autour de nous. Ça plaît pas à toutes ces personnes qui nous encouragent pas forcément. Et certains, j'en ai entendu, qui disaient ces conseils tellement intelligents. La foi, c'est pour les faibles. Oui, la foi, c'est pour ceux qui se savent faibles, mais qui savent que Dieu est tout-puissant pour venir à leur secours. Et souvent, quand les personnes disent ce genre de conseils, c'est pas les personnes qui vont aider en plus la personne. Ils sont là seulement pour vous enfoncer, mais ils sont pas là pour vous aider. Voilà pourquoi c'est important de prendre le risque de la foi, d'essayer malgré tout, essayer de croire en Dieu. Et vous verrez que cette démarche, Dieu il approuve, parce que Dieu est un Dieu qui écoute la prière du cœur qui est humble. Soyons prêts à prendre le risque de la foi. Si ça peut changer notre existence, est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup d'être totalement changé dans notre vie? Je pense que oui. Quel que soit l'effort qu'on doit faire, si notre existence peut être totalement bouleversée, alors je pense que ça vaut le coup d'essayer, tout simplement. Et le lépreux dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Le lépreux, il ne fait pas semblant. Il ne fait pas semblant. Il ne fait pas semblant d'être chrétien. Il ne fait pas semblant de faire les choses. Il se prosterne, il fait une action, et en même temps, ses paroles, elles sont en accord avec son action. Il dit, « Seigneur, Seigneur !» Il reconnaît que Jésus est le Seigneur. Et il y a ce verset qui nous dit que les hommes droits contemplent sa face. Même le pécheur qui reconnaît son état, sa position, qui est honnête avec lui-même et avec Dieu, il peut contempler la face de Dieu. Il peut du moins accéder à cette présence du Seigneur qui peut le pardonner. Et la prière du lépreux peut être entendue dans ces moments-là. Le lépreux, il n'est pas venu imposer sa prière, mais il dit « si tu le veux ». Est-ce que nous avons cette démonstration de foi? Peut-être aujourd'hui, il y en a qui utilisent cette expression « si tu le veux », mais dans la mauvaise manière. Seigneur, si c'est ta volonté, alors je ne suis pas vraiment sûr, ça se pourrait, mais je ne suis pas bien sûr, il faudrait que je vérifie, fais telle chose. Est-ce que ça, c'est une démonstration de foi? On est d'accord que non. Parce que la volonté, elle est claire, elle est précise, elle est définie. La volonté, c'est la parole de Dieu. Et cet homme-là, il n'est pas venu dans cet état d'esprit. Quand il prononce ces paroles, si tu le veux, il dit littéralement, Seigneur, que tu me guérisses ou pas, je sais que tu vas faire ce qui est bien pour moi. Et ça, c'est une démonstration de foi. Ça, c'est le risque de la foi. Ça, c'est remettre sa vie dans les mains du Seigneur. C'est lui dire, Seigneur, prends ma vie, que je connaisse la bénédiction, que je ne connaisse pas la bénédiction, je sais que tu vas me donner ce qui est de meilleur pour moi, parce que je sais que tu es quelqu'un de confiance. Alors ce soir, il ne faut pas qu'on doute, mais qu'on ait cette confiance en Jésus. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. En d'autres termes, Dieu veut que tous les lépreux du cœur soient purifiés de leur lèpre. C'est le désir du Seigneur, c'est la promesse qu'il a faite, c'est ce qu'il veut avant toute chose. Et s'il y a une seule prière au monde que vous êtes sûr que Dieu veut exaucer, c'est cette prière. Seigneur, purifie-moi, purifie mon cœur, parce que j'ai péché. Et vous allez voir que Dieu va le faire, parce qu'il est un Dieu de parole. Maintenant, il déclare sa foi. Il lui dit, si tu le veux, mais il lui dit aussi, tu peux me rendre pur. Seigneur, je sais que tu es puissant pour me rendre pur. Je connais ta toute puissance, je sais que tu es le créateur de l'homme. Je sais que tu es celui qui a créé l'homme, qui sait parfaitement comment faire pour guérir, pour rétablir, pour refaire pousser un membre s'il faut. Je sais que tu es tout puissant. Si tu peux me rendre pur. Peut-être quelqu'un lui avait témoigné sa guérison avant. Peut-être qu'il avait vu des malades guéris par Jésus, on ne sait pas. Mais en tout cas, il croit que Jésus est capable de le guérir. Comme ce soir, nous croyons que Dieu est capable de guérir même une maladie. Parce qu'il est dit que sur la croix, par ces meurtrissures que Jésus a eues sur la croix, nous sommes guéris, nous avons la guérison. Il s'est chargé de nos douleurs. À la croix, il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de toutes ces choses. De telle sorte que maintenant nous pouvons être guéris en mettant notre foi en lui. Et on lit en suivant Jésus qui étend sa main et le toucha. Et moi j'imagine cette scène, Jésus qui commence à faire un geste. Et là je vois les religieux de l'époque qui disent « Ah, enfin ! Enfin il va le repousser ! Enfin il va le remettre à sa place cet homme-là, parce qu'il n'a rien à faire ici. Enfin il va le... » Parce que quand on commence à faire un geste, on imagine que ça pourrait être très bien ce geste. Ne m'approche pas trop, reste un peu à l'écart. Hein. T'approche pas trop près là parce que tu vas me contaminer. Mais non, Jésus commence à faire le geste. Et quel geste il fait? Il étend sa main et il le touche. Tout ce qu'il ne fallait pas faire, tout ce que la loi même disait de ne pas faire, il le fait. Et j'imagine la main de Jésus qui doit être propre, qui doit être blanche, qui doit être là. Avec ça, il doit être bien habillé, enfin, je veux dire de manière tellement simple, contrairement à cet homme-là qui est lépreux, qui lui avait des habits déchirés, il ne devait pas sentir bon, il ne devait pas avoir toutes sortes de choses. Jésus qui pose sa main sur son épaule, il pose sa main pour lui montrer que Dieu est intéressé par son cas. Dieu, il est intéressé par sa prière. Dieu, il n'est pas intéressé par ses richesses, il n'en a pas. Dieu n'est pas intéressé par sa vie passée. Et quand on réfléchit aussi à cette chose, peut-être qu'avant il était prince, peut-être qu'avant il était mendiant. On n'en a aucune idée. Et c'est même pas ça l'important. Parce que de toute façon, celui qui était prince ou celui qui était mendiant, quand il devient lépreux, il est dans la même condition. Il n'y a aucune différence. Et il y a aussi cette idée que peut-être la seule consolation qu'il va trouver, ça sera auprès de ceux qui sont lépreux. Mais quand il les regarde... Est-ce qu'il ne se voit pas lui-même? Est-ce qu'il ne se voit pas surtout la maladie qui fait son ravage? Est-ce qu'il ne voit pas ceux qui sont lépreux depuis tant d'années, qui sont tellement attaqués dans leurs membres, qu'il leur manque tellement de parties de leur corps? Est-ce que ça le console véritablement? Je ne pense pas. Comme cette consolation qu'on peut trouver auprès des hommes qui sont pécheurs. Alors peut-être qu'on peut trouver quelque chose, mais ça ne dure pas parce que au final, on va se rendre compte qu'ils sont aussi mauvais que nous. Pardonnez-moi ce terme, mais c'est la réalité. Qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et même s'ils peuvent nous apporter une consolation temporaire, on se rend compte bien vite que peut-être un jour, ils vont nous blesser sans le savoir. Peut-être qu'ils vont nous dire une parole qui va nous faire mal, alors qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils sont que des hommes. Et la seule consolation véritable, elle vient dans la personne de Jésus-Christ. Mais cet homme, il voit Jésus qui le touche avec sa main. Et cet homme, il comprend que Dieu est intéressé par son cas. Aujourd'hui encore, les hommes croient que Dieu est loin. Les hommes croient que Dieu est tellement saint qu'il ne s'intéresse pas à l'homme. Mais Dieu est occupé et intéressé, passionnément intéressé par ce qui va arriver à l'homme. Il voudrait tellement qu'il soit en communion avec lui. Il voudrait tellement qu'il rentre dans la vie que Dieu a prévue pour lui. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, que nous soyons purs, que nous soyons saints pour tendre la main vers nous, mais que dans notre lèpre, dans la lèpre qui touche notre cœur, dans notre péché le plus profond, Dieu y tend sa main et il a tendu sa main, et il a étendu ses deux mains, on l'a chanté, à la croix en donnant sa vie pour tous les hommes. Et de cette manière, il a montré son amour envers tous les hommes. Il a tendu sa main envers l'homme à ce moment-là, il y a plus de 2000 ans en arrière. Et écoutez cette parole qui ce soir peut vous faire encore du bien, peut me faire du bien, c'est sûr. Quand c'est une parole de Jésus, on connaît la puissance que ça a. Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. C'est la volonté de Dieu que nous soyons purifiés. Quelle parole de délivrance pour ce lépreux. Est-ce que ça, c'était pas une réponse à sa prière, déjà ? Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui répond, je le veux, sois pur. Est-ce que ce n'est pas la réponse précise et exacte à sa prière précédente? Je pense que oui. Il n'y a pas de meilleur moyen de répondre à cette question à cette prière qu'il lui a faite, en tout cas. Et Dieu, il n'est pas cette personne qui nous torture à nous donner des choses qu'on ne veut pas, à nous faire passer par des endroits qui ne sont pas bons pour nous. Dieu, il nous donne les bonnes choses parce qu'il connaît et il sait ce qui est bon pour nous. Il sait que la meilleure chose pour nous, c'est d'être purifié de la lèpre. Et comme Jésus a pu dire à ce lépreux, sois pur, il veut nous dire encore, sois pur ce soir. J'ai le pouvoir de te purifier. J'ai le pouvoir de t'ôter ce mal qui ronge ton être petit à petit, inexorablement. Peut-être c'est tellement insidieux que ça ne se voit même pas, mais tu le ressens, tu le vois dans les choses extérieures, dans les réactions que tu as, tu le vois dans les personnes qui sont autour de toi qui t'expliquent que tu ne réagis pas bien. Tu le vois dans tellement de domaines différents de ta vie, dans des sentiments qui sont là, dans des pensées qui sont là et qui ne font pas du bien à ton âme. Tu vois que le mal, il est là, il est en train de ronger. Et Jésus veut te dire, sois pur ce soir. Si tu crois en moi, alors tu vas être purifié tout simplement. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Le risque de la foi a payé. Parce que, autant il a eu la promesse, juste avant, la promesse qu'il allait être guéri, que aussitôt, il est purifié, il voit l'accomplissement de la parole de Dieu, la parole de Jésus pour lui. Toutes ses craintes, toutes ses peurs, toutes ses angoisses, toutes ses pensées négatives qui étaient là, toutes les moqueries même des gens qui sont autour, toutes les menaces peut-être des gens qui étaient là, elles disparaissent en une seconde parce qu'il a mis sa foi en Jésus-Christ. En une seconde, sa vie passe d'un être impur à quelqu'un de pur. Et j'imagine la scène, parce qu'il a dû se passer quelque chose. Peut-être s'il manquait un doigt, il a dû repousser. J'imagine qu'il y a des choses extraordinaires qui se sont passées à ce moment-là. Nous, on lit, aussitôt, il fut guéri. Alors, on dit, c'est bien. Mais on n'imagine pas tout ce qui s'est passé. Moi, j'imagine cet homme qui est en train de sortir peut-être les bandages qui cachaient ses mains, qui étaient mutilées. Il est en train de les sortir. Et il se rend compte qu'il a les mains toutes lisses. Il est en train de toucher, palper sa peau du visage. Il voit qu'il n'y a plus aucune bosse, plus aucune marque, plus aucune ride, plus rien. Il a une peau de bébé. J'imagine la joie de cet homme qui se rend compte que parce qu'il a fait confiance tout simplement à Jésus, Jésus a changé sa vie du tout au tout. Jésus a changé sa vie. Et alors qu'avant, il était hors de question qu'il soit dans cette présence, au milieu de la foule, là, il n'avait plus de raison de ne pas y être. Il n'avait plus de raison de ne pas y être parce qu'il était pur. Parce que le risque qu'il a pris, il a payé parce qu'il a pris le risque de croire en Jésus. Et ça, c'est le meilleur risque qu'on peut prendre, je crois, aujourd'hui. Si on veut voir notre vie littéralement changer, eh bien, c'est la meilleure décision qu'on puisse faire. Maintenant s'ouvre devant lui une vie nouvelle. Maintenant il peut commencer à avoir des projets. Il peut surtout commencer à voir comment servir Jésus. Et c'est intéressant de voir ce que Jésus lui dit. Il lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Est-ce que ça voulait dire qu'il ne devait pas rendre témoignage de ce qu'il avait vécu? C'était surtout, avant de faire ça, obéis à la loi. Bizarrement, il a obtenu la guérison en n'obéissant pas à la loi, mais en ayant la foi, en obéissant à la loi de la foi. Et là, Jésus lui dit, maintenant que tout est rétabli, Il faut que tu fasses ce qui est convenable. Il faut que tu ailles te présenter devant le sacrificateur. Et quand on voit, je ne vous explique pas, et ça mériterait presque une prédication entière, quand on voit ce qu'il fallait faire quand on était lépreux, quand on était à nouveau purifié, quand on était pur, tous les sacrifices, il y a toutes sortes de sacrifices, sacrifices de culpabilité, d'expiation, un holocauste, enfin il y a toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses, mais qui ne font que parler d'une seule chose. Il parle de la croix. Il parle du sacrifice de Jésus. C'était des images du sacrifice de Jésus. La simple chose, c'est de comprendre. Et Jésus, qui était là devant lui, il ne pouvait pas lui dire « crois en la croix » puisqu'il n'était pas encore mort. Par contre, il lui dit « fais ce que la loi ordonne ». Pour nous, ça nous parle maintenant que Jésus a donné sa vie et qu'il est ressuscité. Ça nous parle de toutes les fois où on veut être guéri, c'est obligatoire qu'il faut passer à la croix, qu'il faut revenir à ce lieu où Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie, où il est mort pour que nous puissions passer par la mort et il est ressuscité pour que nous puissions avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Oui, quand Dieu va nous purifier, quand Dieu va purifier celui qui est lépreux dans son cœur, alors il va vivre la même chose. Tout ce qui est ancien aura disparu. Et tous les malheurs de cette lépreux, ils ont disparu en une seconde. Mais c'est pareil quand on vit, quand on croit en Jésus. Tout ce qui est ancien, toutes les choses anciennes sont passées. Et toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Tout est neuf, tout est beau, tout est merveilleux. Et quand on se convertit, quand on croit en Jésus-Christ, notre vie elle est changée. Notre façon de penser elle est changée. Toutes les choses qui étaient pour nous des liens avant, et bien maintenant on n'a même plus d'intérêt pour ces choses-là. Parce que Dieu nous a transformés littéralement. Et même ceux qui nous entourent voient le changement. Parce que quand Dieu purifie quelqu'un à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Parce que c'est sa manière d'agir. Ce soir, nous avons le choix de laisser la parole du Seigneur simplement nous pénétrer, que nous puissions simplement considérer l'exemple de ce lépreux. Vous voyez, il y a peu de versets, mais il y a tellement de choses qui sont cachées derrière ces versets que nous puissions simplement laisser cette parole envahir notre cœur et changer notre vie encore. Peut-être pour nous qui connaissons Dieu, que nous puissions encore nous revenir à la croix et dire « Seigneur, purifie-moi, je sais que je ne suis pas encore parfait, je sais que j'ai besoin de marcher encore, que ton sang puisse purifier ma conscience pour que je puisse servir le Dieu vivant, comme on l'a lu tout à l'heure. Peut-être pour celui qui ne connaît pas Dieu, qui puisse simplement oser croire en Dieu. Et c'est la meilleure chose qu'on puisse faire sur cette terre, je pense aujourd'hui, parce que c'est la meilleure façon d'être changé, que son nom soit béni. Amen. Jésus, merci parce que tu es présent dans ce lieu. Merci parce que ta parole est vivante. Merci parce que ta parole est efficace. Merci parce que ta parole est pertinente pour aujourd'hui encore, Seigneur. Et tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Merci parce que ce que nous lisons, nous savons que tu peux le faire encore aujourd'hui. Oui, nous savons et nous croyons que tu peux guérir celui qui est malade ce soir peut-être. Mais nous croyons aussi que tu peux guérir celui qui est malade dans son cœur, celui qui a le cœur brisé, celui qui est découragé par la vie, celui pour qui pense que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Nous croyons que tu es capable de changer la vie de quelqu'un en une seconde, du moment que l'on place sa foi en toi, du moment qu'on ose croire en toi, Seigneur, du moment qu'on ose te faire confiance. Oui, Seigneur, tu es tout puissant pour agir. Nous voulons, nous qui avons été, ces lépreux qui ont été guéris, nous voulons le proclamer, nous voulons le dire que tu es tout puissant. Et nous voulons encore marcher dans la pureté, dans la sanctification, pour te voir un jour, pour avoir cette espérance de te voir un jour dans ton paradis, Seigneur. Que ton nom soit béni. Bénis nos cœurs, bénis ces instants, que ta parole puisse trouver le chemin de notre cœur et faire son œuvre en nous, afin que l'action qui aura lieu à l'intérieur se voie à l'extérieur et que nous puissions être tes témoins autour de nous. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.